Voici une question dont la réponse pourra transformer votre vie. Comment pouvons-nous savoir si nous avons une foi réelle? La parole de Dieu va nous répondre bien clairement, aujourd'hui même à l'émission « À travers la Bible ».
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Je suis dans la joie parce que je sais qu'aujourd'hui, les réponses à nos questions vont être d'un puissant encouragement pour chacun de nous, les croyants. Et en plus, j'aimerais encourager les gens qui n'ont pas encore la certitude d'avoir la vie éternelle, d'écouter les enseignements qu'on va recevoir. Je peux même vous dire que c'est une question de vie ou de mort. Alors voici les questions. Est-il possible d'être certain de ressusciter un jour? Au retour de Jésus, qu'est-ce qui va arriver à ceux qui vont l'avoir rejeté? Quels sont les divers jugements mentionnés dans la Bible? Que signifie le terme « les arts de l'esprit » Comment pouvons-nous savoir si nous avons une foi réelle? Est-ce que notre âme va mourir un jour? Est-ce que les croyants devront rendre compte à Dieu pour leurs œuvres? Comment est-ce qu'un croyant qui souffre peut être dans la joie? Eh bien, demeurez avec nous. Les Saintes Écritures ont les réponses à toutes nos questions et dans quelques instants, on va entendre tout ce bon enseignement par la bouche du pasteur Régent Joly. Mais premièrement, prions. Seigneur, c'est avec joie qu'on entre dans ta présence pour te dire quel Dieu merveilleux tu es et pour te demander de nous instruire aujourd'hui. Parle-nous, Seigneur, par la bouche de ton serviteur. Enseigne-nous, on s'attend à toi, mon Dieu. Amen. À toi, Régent.
Merci beaucoup, Caro. À la dernière émission, nous avons terminé l'étude du chapitre 4 de la deuxième épître de Paul aux Corinthiens. Nous avons vu que le Seigneur Jésus console les siens lors de persécutions et de souffrances. Nous portons le glorieux message de l'Évangile dans des vases de terre, afin que Dieu reçoive toute la gloire. En effet, nous sommes des êtres fragiles, et si Dieu nous abandonnait, nous ne serions rien. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. C'est lorsque nous sommes conscients de notre faiblesse que nous nous accrochons à lui et que nous devenons forts. En fait, c'est lui qui combat pour nous. Le chrétien fait face à des souffrances parce que le monde le hait, comme il a haï le Seigneur Jésus. De plus, Dieu permet que nous souffrions afin de briser notre orgueil et nous libérer de notre péché. C'est lorsque nous pouvons faire briller sa gloire qui se trouve dans notre cœur que nous lui sommes utiles. Les afflictions que nous éprouvons sur terre ne sont rien comparées au poids de la gloire éternelle. La mort n'est pas la fin de tout, mais une porte d'entrée pour l'éternité. Dans cette section, nous avons vu que Dieu nous console par le ministère de Jésus-Christ, et il nous console lorsque nous souffrons pour son Fils. Aujourd'hui, nous allons voir que le Dieu nous réconforte lorsque nous faisons face aux martyrs pour notre foi. Chers amis, débutons cette lecture de 2 Corinthiens chapitre 5, verset 1. Nous savons, en effet, que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Nous savons que nous ressusciterons. C'est une certitude pour le croyant. Je tiens à ce que vous remarquiez ce que Paul dit dans ce verset. Nous savons. Il ne dit pas « nous espérons », « nous nous attendons à ce que » ou encore « nous croyons ». En effet, que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Quelle assurance ! Oui, Paul parle avec assurance. Nous savons. Il sait parce que l'Esprit le lui a révélé hors de tout doute. Le mot grec pour tente est skène, c'est le mot que la Septante, la traduction grecque de l'Ancien Testament, utilise pour traduire le mot hébreu, utilisé pour le tabernacle dans le désert. Dans le désert, le tabernacle était une tente, une structure peu solide. Paul parle du nouveau corps que nous aurons après la résurrection. Dans le chapitre précédent, Paul a parlé de l'homme extérieur et de l'homme intérieur. L'homme extérieur dépérit, mais l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. De nombreuses personnes ne comprennent pas cela. Un auditeur a dit au pasteur J. Vernon McGee, l'auteur de nos textes, que la Bible est pleine de contradictions, et il affirmait pouvoir le démontrer. « Tu parles de un tel qui est auprès du Seigneur, dit l'homme, et ensuite tu parles de la résurrection de notre corps, mais cette résurrection se fait sur terre. Ça, c'est une contradiction. » Cet homme n'avait pas compris. Le corps est enseveli, mais l'âme, l'essence de la personne, est avec le Seigneur, si l'individu est un croyant, bien entendu. Notre corps est temporaire, chers amis. Nous voyons les choses temporelles. Peut-être m'avez-vous vu. Peut-être ne m'avez-vous jamais rencontré. Certaines personnes qui m'ont entendu à la radio viennent me voir à un déjeuner de l'espoir. Mais lorsque ces personnes me rencontrent, elles ne me voient pas vraiment. Elles ne voient que la tente dans laquelle je vis, soit mon corps. Et nos tentes dépérissent, chers amis, avec le temps. Elles perdent leur vigueur. Salomon décrit une personne âgée dans l'Ecclésiaste. Temps où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes forts se courbent, où celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées, où ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis, où les deux battants de la porte se ferment sur la rue quand s'abaisse le bruit de la meule, où l'on se lève au chant de l'oiseau, où s'affaiblissent toutes les filles du champ. Ecclésiaste chapitre 12, versets 5 et 6. Les gardiens de la maison sont les jambes, les hommes forts, les épaules, les yeux regardent par la fenêtre, c'est-à-dire que notre vue baisse en vieillissant. Je vous parle avec l'aide de lunettes, chers amis. J'ai besoin de cette paire de lunettes pour voir plus clair, pour voir ces quelques mots qui sont écrits devant moi. Le bruit de la meule s'abaisse parce que Louis n'est plus ce qu'elle était. Ce verset décrit le vieillissement du corps humain, de l'homme extérieur. Les choses que nous voyons sont temporaires. Dieu est esprit. Ensuite, il y a l'homme intérieur, c'est l'homme spirituel. Nous comprenons difficilement que Dieu est une personne, mais Dieu n'est pas un être physique ou matériel. Dieu est esprit. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent, en esprit et en vérité. Jean chapitre 4, verset 24. Certaines personnes affirment ne pas aimer vieillir, mais en fait, chaque année qui passe nous rapproche du Seigneur. Nous le verrons un jour. Nous verrons son visage glorieux si nous sommes croyants. Nous verrons celui qui nous a aimés et qui a donné sa vie en rançon pour nous. Je me réjouis de l'idée de voir le Seigneur un jour et d'être avec lui pour l'éternité. Notre tente, notre homme extérieur vieillit. Écoutez ce que l'apôtre Paul avait à dire à ce sujet dans Philippiens, chapitre 1er, versets 20 à 23. « Selon ma ferme attente et mon espérance, je n'aurai honte de rien. » Mais maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Car Christ est ma vie, et mourir m'est un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur, mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. » Un jour, quelqu'un demanda au président Adams comment il se sentait alors qu'il était devenu âgé. Il répondit, « Je vais bien. La vieille demeure dans laquelle j'habite devient branlante. Les bardeaux se détachent du toit et les fondements s'effritent. Mais M. Adams se porte bien. Merci. » Mes amis, une tente éternelle nous attend au ciel. Notre corps est semé corps naturel, mais il ressuscitera corps spirituel. Dieu nous donnera un nouveau corps au ciel. Avez-vous cette espérance? Elle vient de Dieu. Elle est dans la Bible. 2 Corinthiens chapitre 5, versets 2 et 3. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus.
Gémissez-vous dans votre tente alors que vous montez ou descendez les escaliers?
C'est très biblique de le faire. Dans quelques années, j'aurai aussi le privilège de gémir dans ma vieille tente, si Dieu le permet. Moi aussi, je vieillis, chers amis.
Sérieusement, un jour le Seigneur reviendra, et les siens s'élèveront à sa rencontre.
Nous nous tiendrons tous devant lui un jour. Dans quel état nous tiendrons-nous devant lui?
Serons-nous revêtus de sa justice, ou serons-nous nus?
Serez-vous revêtus de la justice du Seigneur lors de son retour?
Tous ne seront pas revêtus de la justice du Seigneur Jésus lorsqu'ils ressusciteront.
Jésus, notre Seigneur, a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification, nous dit l'Épître aux Romains, chapitre 4, verset 25.
Sa justice est portée sur notre compte.
Cependant, certaines personnes rejettent la justice que le Seigneur Jésus leur offre.
Ces personnes rejettent le Seigneur Jésus. Donc, il y aura une résurrection des justes et des injustes.
Paul en parle dans Actes chapitre 24, verset 15, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes.
Jésus affirme la même chose dans l'Évangile de Jean chapitre 5, verset 29.
Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement.
Mes amis, un jour, vous vous tiendrez en présence de Dieu.
Serez-vous revêtus de la justice du Seigneur Jésus?
Êtes-vous acceptés dans le bien-aimé?
Vous savez, il y a plusieurs jugements. C'est un bon moment pour mentionner que la Bible n'enseigne pas qu'il y aura un seul jugement, mais plusieurs jugements.
Premièrement, il y a eu un premier jugement alors que le Seigneur Jésus a porté la peine de nos péchés à la croix.
C'est parce que Jésus a pris sur lui notre condamnation qu'il a pu dire « en vérité, je vous le dis ».
Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie.
Jean chapitre 5, verset 24.
Deuxièmement, il y a le jugement que l'on fait de soi. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 31.
Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés.
Troisièmement, de plus, il y a le jugement que Dieu exerce sur les croyants en les châtiant.
Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils.
Hébreux chapitre 12, verset 6.
Quatrièmement, plus loin dans ce chapitre, nous verrons que les œuvres des croyants seront jugées.
Cinquièmement, la nation d'Israël sera jugée.
Sixièmement, toutes les nations seront jugées.
Septièmement, les anges déchus seront jugés.
Et, finalement, huitièmement, il y aura le jugement du grand trône blanc, que nous retrouvons dans le livre de l'Apocalypse.
Tous les perdus comparaîtront à ce tribunal.
Ils ne seront pas revêtus de la justice du Seigneur Jésus, mais ils seront spirituellement nus.
Ils seront jugés par leurs œuvres comme ils l'ont désiré.
C'est un choix. L'éternité est un choix pour vous et moi.
Verset 4. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés,
parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie.
Si vous avez envie de gémir, ne vous gênez pas, mes amis, c'est biblique.
Oui, la parole de Dieu nous dit que celui qui est croyant sur cette terre gémit dans sa tente.
Nous portons un fardeau.
C'est bien le cas. C'est pourquoi nous gémissons dans nos corps.
Venez m'entendre gémir de temps à autre.
Ce n'est pas que nous craignons d'être nus en comparaissant devant le Seigneur, car nous savons que nous serons revêtus de sa justice.
S'il est notre sauveur, il est notre seul espoir.
Nous gémissons parce que nous vivons dans un corps qui vieillit.
Verset 5.
Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit.
L'Esprit en nous garantit notre rédemption finale.
Les arts de l'Esprit indiquent que nous recevrons encore davantage.
Les arts sont habituellement ce que nous appelons un dépôt au moment que nous négocions un achat.
Il nous a donné l'Esprit qui habite dans nos corps faibles et fragiles.
L'Esprit n'est qu'un acompte.
Le Seigneur Jésus nous a rachetés et le Saint-Esprit habitant en nous est un dépôt.
Un jour, nous quitterons notre vieille tente pour aller à la rencontre du Seigneur.
C'est toute une nouvelle perspective qui est ouverte pour nous. Verset 6. Nous sommes donc toujours pleins de confiance, et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Nous sommes chez nous dans notre corps. J'aime le corps que le Seigneur m'a donné. J'ai quelques cicatrices dues à des petits accidents, mais au cours des années, je me suis habitué à mon corps, et je m'y sens à l'aise. Cependant, tant que je suis dans ce corps, je demeure loin du Seigneur. J'ai hâte de pouvoir m'y approcher. Et vous ? Verset 7. Car nous marchons par la foi et non par la vue. La foi, c'est faire entièrement confiance à ce que Dieu dit. Comment est-ce que Paul pouvait être si certain que nous serons avec le Seigneur après avoir quitté ce corps ? Paul dit que nous marchons par la foi. Nous croyons ce que Dieu dit. Je préfère prendre sa parole que celle de toute autre personne. La foi, c'est faire entièrement confiance à ce que Dieu dit. Nous vivons dans nos corps et nous demeurons loin du Seigneur. Verset 8. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. L'âme ne meurt pas. Ce verset souligne le contraste entre habiter ce corps et habiter près du Seigneur. Rappelez-vous que votre âme ne meurt pas. L'âme ne meurt jamais, mais elle se rend auprès du Seigneur. C'est le corps qui s'endort. C'est le corps qui doit être changé. Rappelez-vous qu'au retour du Seigneur, de nombreuses personnes ne verront pas la mort, mais leur corps devra tout de même être changé. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. 1 Corinthiens chapitre 15, les versets 51 et 53. C'est le corps qui s'endort et c'est lui qui se relèvera. Ce n'est pas l'âme ou l'esprit qui ressuscite. Anastasis, le mot grec traduit résurrection, signifie tenir debout. C'est le corps qui se tiendra debout. Sachant cela, nous marchons par la foi. Versets 9 et 10. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive, selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Bema est le mot grec traduit tribunal. C'est l'endroit où les juges d'une ville exerçaient leurs fonctions. Le peuple venait s'y faire juger. Les causes jugées n'étaient pas du type à mériter des condamnations à mort. Au tribunal du Seigneur, seuls les croyants seront jugés. Ils ne seront pas jugés pour leurs péchés, car le Seigneur Jésus a été condamné à leur place lorsqu'il fut crucifié. Ce tribunal déterminera les récompenses que vous recevrez. Nous rendrons compte à Dieu pour nos œuvres sur terre. Lorsque Paul dit « Il nous faut tous comparaître », il s'adresse aux croyants. Tous les croyants seront jugés pour recevoir ce qu'ils ont mérité par leurs œuvres. Ils seront jugés pour leur conduite alors qu'ils étaient dans leur corps. Le Seigneur examinera notre marche chrétienne. Lorsque nous serons en sa présence, nous en aurons terminé avec nos vieux corps mortels. Dieu nous demandera quel usage nous en avons fait. Comment avons-nous vécu sur terre? Paul a traité cette question en écrivant aux Philippiens. Il a dit, « Car Christ est ma vie, et mourir m'est un gain. » Philippiens chapitre 1, verset 21. Ensuite, il parle de son désir d'aller et d'être avec le Seigneur, mais aussi de son désir de voir son ministère auprès des Philistins être prolongé. Il veut vivre plus longtemps afin de prêcher l'Évangile. Le pasteur J. Vernon McGee, l'auteur de nos textes, a eu une réaction semblable lorsqu'il a appris qu'il avait un cancer et que les médecins lui laissaient peu d'espoir. Il s'est senti comme un jeune garçon à l'école du dimanche. Le pasteur demande aux membres de l'Église « Combien veulent aller au ciel ?» Tous levèrent la main sauf un jeune garçon. « Ne veux-tu pas aller au ciel ?» lui demanda le professeur du haut de son estrade. « Oui, répondit le garçon, mais je pensais que vous organisiez un départ pour ce soir. » « Comme ce garçon, » disait le pasteur McGee, « je ne voulais pas partir immédiatement lorsque j'ai appris que j'avais le cancer. »
Paul ne voulait pas partir. Il voulait avoir l'occasion d'exercer son ministère un peu plus longtemps. Il voulait glorifier le Seigneur dans son cœur afin d'être reçu par lui et recevoir une récompense. Chers amis, c'est ainsi que je me sens. Je veux demeurer moi aussi dans mon corps et faire le plus possible pour le Seigneur. Voici le premier motif des croyants. Nous comparaîtrons tous au tribunal du Seigneur Jésus et nous rendrons des comptes au sujet de notre marche chrétienne. Assurons-nous cependant de ne pas confondre le tribunal de Christ avec le jugement du grand trône blanc que nous lisons dans l'Apocalypse chapitre 20 versets 11 à 15, devant lequel seulement les incroyants comparaîtront. Si vous êtes un croyant, votre nom est inscrit dans le livre de vie et vous avez la vie éternelle. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Cependant, vous comparaîtrez devant le tribunal de Christ pour recevoir des récompenses. Vous et moi, nous nous tiendrons devant le Seigneur. Ceci devrait nous motiver à bien le servir, de savoir qu'un jour, nous serons devant notre Seigneur. Ensuite, lorsque nous comparaîtrons devant lui, il pourra nous dire, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » Le chrétien n'a pas à craindre les détresses, ni les souffrances, ni la persécution, ni la mort. Qu'importe ce qui lui arrive, il recevra un corps spirituel et immortel qui ne sera plus sujet à la mort ni à la corruption. Le croyant qui décède se retrouve en présence du Seigneur Jésus et il accompagnera le Seigneur lors de son avènement, c'est-à-dire lors de son retour. Car la Bible nous parle d'un retour imminent de notre Seigneur Jésus-Christ, oui, pour cette terre. Son corps ressuscitera à cette occasion alors que le corps des croyants vivants au moment du retour du Seigneur sera transformé. Notre âme ne meurt jamais. Et il y a un repos céleste pour les croyants, pour ceux qui sont adoptés dans la famille de Dieu. C'est pourquoi nous n'avons pas à vivre dans la crainte et dans le désespoir dans ce monde, un monde d'injustice et de violence. Si la rébellion de l'humanité contre son Créateur entraîne la souffrance, que nous voyons partout dans le monde, le chrétien, tout en n'échappant pas à cette souffrance, peut éprouver une joie, car Dieu est avec lui. Et il le sera pour l'éternité. Notre passage sur terre est un pèlerinage. La souffrance du croyant est temporaire. Après la mort, il sera avec le Seigneur Jésus, là où il n'y aura plus ni mort, ni maladie, ni souffrance, ni pleurs, mais une relation intime avec Dieu, notre Créateur, qui nous a aimés au point d'envoyer son Fils Jésus mourir pour nous. Par contre, pour celui qui rejette le Seigneur Jésus, c'est une éternité de souffrance qui l'attend. C'est la condamnation pour avoir rejeté le Seigneur Jésus qui lui a proposé le don gratuit de la vie éternelle. Il n'a pas accepté que la rançon payée par le Seigneur Jésus couvre ses péchés. Il a voulu vivre sans Dieu ou se mériter le ciel par ses œuvres. Cette personne ira donc à la perdition éternelle. Mes amis, le Seigneur Jésus vous invite à venir à lui pour le repos de vos âmes. L'apôtre Jean a dit, « Je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Le Seigneur Jésus vous invite à le recevoir afin qu'il puisse terminer avec vous votre pèlerinage sur terre. Vous ne serez pas exempt de toute souffrance, mais il sera là pour vous consoler, pour ensuite vous recevoir avec lui au ciel, là où il n'y aura plus de souffrance. Voilà ce que Dieu nous offre, ce que Dieu t'offre à toi qui es à l'écoute de cette émission. Tu peux le recevoir. C'est un don gratuit. Jésus a tout payé pour toi à la croix. Il a porté ta condamnation. Prochaine émission, 2 Corinthiens chapitre 5, les versets 9 à 16.
Merci beaucoup, Régent. Mes amis, vous ne trouvez pas que c'est merveilleux d'entendre ce qui va arriver à tous ceux qui ont la foi réelle? À tous ceux qui font entièrement confiance à Dieu dans tout ce qu'il dit. Je suis tellement heureuse d'avoir réalisé un jour que j'étais une pécheresse perdue. mais que Dieu me disait clairement dans sa parole, dans la Bible, ce que j'avais à faire pour être pardonné et pour recevoir le don gratuit de la vie éternelle. Mes amis, j'ai simplement cru que Jésus est mort sur la croix à ma place, qu'il a été mon substitut, qu'il a payé la dette liée à mon péché. Jésus a pris sur lui le châtiment que je méritais. J'ai mis ma confiance en Jésus seul pour me sauver des conséquences du péché. Et maintenant, comme Réjean l'a mentionné, au lieu d'être jugé pour mes péchés lors du jugement dernier, je vais comparaître devant le tribunal de Christ pour recevoir des récompenses. Et comme tous les autres croyants, je veux l'entendre dire ce qu'il a cité dans la parabole des talents, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 25, verset 21. « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Mon ami, si je peux dire ceci avec autant de certitude, c'est que j'ai été sauvé par Jésus, en plaçant ma foi en lui seul. Et si tu es de ceux qui croient qu'on peut être sauvé en faisant toutes sortes de bonnes œuvres, je t'invite à écouter ce que Paul nous a dit dans le deuxième chapitre de son épître aux Éphésiens, des versets 8 à 10. Il dit, « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne dépend pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Alors, mon ami, si on comprend bien l'enseignement qu'on a reçu de la parole de Dieu aujourd'hui, ou bien on refuse le don gratuit de la vie éternelle pour attendre le jugement dernier et la condamnation pour nos péchés, ou bien on accepte ce beau cadeau que Dieu nous offre, celui qui a été payé en entier quand Jésus est mort sur la croix pour payer la dette de nos péchés. Et si tu veux recevoir ce cadeau en ce moment, tu n'attendras pas le jugement dernier, mais tu attendras de passer devant le tribunal de Christ pour recevoir tes récompenses. Et tu vivras éternellement dans la présence de notre merveilleux Sauveur et Seigneur. Mon ami, n'aimerais-tu pas entendre ce que Jésus veut te dire? C'est bien, bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître. Ne tarde pas. Jésus se tient à la porte de ton cœur et il frappe. Ouvre la porte pendant qu'il est encore temps de le faire. Tu ne sais pas si tu vivras demain. C'est aujourd'hui le jour du salut. Repens-toi. Détourne-toi de ta vie de péché et demande pardon à Dieu. Demande à Jésus de te sauver, de te donner la vie éternelle. C'est pour toi qu'il est mort sur cette croix.
Chers amis, nous vous invitons à correspondre avec nous afin de recevoir un cours Parole par poste.
Qu'est-ce qu'on apprend, Réjean, dans des études bibliques par correspondance?
Dans la série radiophonique À travers la Bible, on a vu au tout début de la série qu'il y avait différentes façons d'étudier la Bible. Celle-ci est par thème. Les gens pourront y découvrir le thème de l'amour, qui est Dieu, qui est la personne de Jésus-Christ, comment faire pour aller au ciel.
Ça a vraiment l'air intéressant. Aimerais-tu nous en dire un peu plus long?
Tous les thèmes, les grandes questions que les gens se posent, sont répondues à travers la Bible. Les gens n'ont qu'à nous demander le petit fascicule, quelques pages, et remplir le questionnaire.
Alors on n'a pas besoin d'autres livres?
La Bible. Uniquement la Bible et ce petit fascicule que l'on remplit, et on le renvoie à l'adresse qui sera inscrite sur ce petit fascicule. Il faut en faire la correction, parce que les gens pourront suivre cette série.
Ah, c'est pas compliqué.
Très simple.
J'ai vraiment le goût de m'inscrire.
Et pour le faire, voici nos coordonnées au téléphone.
1-877-LESPOIR ou 1-877-537-7647. Et on a une adresse courriel.
www.radioespoir.ca. Adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143, Charlebourg, Québec, G1G6P2.
Au revoir.
À demain.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.